Bien, ben, pendant que M. Chrysfos finit d'enfiler sa veste, nous allons donc pouvoir commencer cette table ronde qui est un hommage à Jacques Sadoul, que vous voyez ici sur une photo prise en 2011 où il était l'invité d'honneur des rencontres de l'imaginaire de Sèvres. Et pour commencer, je dois dire que je suis vraiment très très heureux d'être ici pour présenter cette table ronde, car Jacques Sadoul fait partie de ces gens qui ont formé plusieurs générations d'amateurs de science-fiction et de littérature d'imaginaire, dont la mienne. Et donc, je tiens à remercier vraiment ici Hugo Bellagamba et Barbara Sadoul pour m'avoir demandé de venir modérer cette table ronde. Et donc, pour parler de Jacques Sadoul, se trouve ici présente sa fille, Barbara Sadoul, qui est auteure et comédienne, digne héritière de son père. Monsieur Chrysfos, que je crois l'on ne présente plus, et qui est l'homme qui a contribué à façonner l'image de la collection de science-fiction chez J'ai lu, créée par Jacques Sadoul. On va revenir dessus après. À côté de Chrysfos se trouve Philippe Ward, qui est auteur et directeur de collection chez Rivière Blanche et qui est le dernier éditeur des œuvres de Jacques Sadoul. Et enfin, Thibaut Eliroff, qui est directeur de la collection de science-fiction chez J'ai lu et donc lui aussi un héritier quelque part de Jacques Sadoul. Et alors, je précise une petite chose. Ce que vous voyez en ce moment, et vous verrez un certain nombre de photos défiler, c'est une partie de la bibliothèque de travail de Jacques Sadoul dans sa maison. On aura l'occasion d'en reparler, mais j'ai tenu à inclure ces photos dans ce diaporama parce que ça montre la manière dont il travaillait et l'immensité de la documentation qu'il a utilisée pour écrire les livres dont nous allons ensuite parler. Alors, sans plus attendre, un dernier petit point quand même, je sortirai un tout petit peu de mon rôle de modérateur habituel, j'interviendrai beaucoup plus que normalement je ne me permets de le faire, d'une part à cause de mon admiration pour Jacques Sadoul, et d'autre part parce que sur certains points de la carrière de Jacques Sadoul, je suis peut-être avec Philippe Ward un petit peu mieux placé que nos autres intervenants pour en parler. Et donc, sans plus attendre, je vais passer la parole à Philippe Ward, qui va vous dresser un portrait de Jacques Sadoul, l'homme et le littérateur.
Je veux dire que moi, j'ai grandi avec Jacques Sadoul. Pendant à peu près 20 ans, il a été d'abord mon dealer. C'est-à-dire que tous les mois, mon père me ramenait un J'ai lu, d'abord de science-fiction, et après, il me ramenait un J'ai lu science-fiction et un J'ai lu l'aventure mystérieuse. Et c'était mes deux grandes passions. Et donc, tous les mois, il était ce dealer. Après, il est devenu mon professeur, parce qu'il m'a appris la science-fiction américaine. Il m'a appris à découvrir tous les auteurs que je ne connaissais pas avec ses anthologies, Pulps. Il m'a appris à connaître la science-fiction. Et un jour, c'était le numéro, je crois, 1000 de la collection J'ai lu, j'ai connu l'auteur. C'était La Passion selon Satan. Et là, j'ai pris une grande claque. J'étais jeune, je sais plus quel âge j'avais. Et dans ce livre, il y avait tout ce que j'aimais. Il y avait à la fois le fantastique, il y avait l'ésotérisme, il y avait l'aspect lovecraftien. J'étais devenu un fan de Lovecraft. Il y avait l'aventure, il y avait la fantasy. Et ce livre, pour moi, je dirais aussi, à l'époque, même si il y avait aussi l'érotisme. Même si ce livre était à l'époque avant, c'était une réédition, hein, mais il y avait déjà un zézérotisme qu'on ne trouvait pas. Et ce livre, pour moi, a été un choc, La Passion selon Satan. Je suis devenu un fan de fantastique. Et là, j'avais à la fois une personne qui était un directeur de collection. Je ne sais pas ce que ça voulait dire, directeur de collection. Pour moi, c'était celui qui m'apportait ma dose mensuelle, qui me montrait les grands auteurs à l'époque, qui pour moi étaient les grands auteurs de l'aventure mystérieuse, et qui était aussi un auteur. J'ai continué avec sa trilogie du domaine de R, et j'étais toujours aussi passionné. Après, je l'ai perdu de vue, j'ai perdu de vue le romancier jusqu'à ce que mon épouse me donne ses romans policiers. Oui, parce qu'il était auteur de romans policiers avec son personnage de détective lesbienne. Et là aussi, j'ai redécouvert un auteur. Et ce qui me marquait, c'était que on parlait de Jacques. Pour moi, tout le monde qui parlait autour de moi de Jacques Sadoul, on parlait du directeur de collection, on parlait de J'ai lu, et on parlait très peu du romancier, alors que pour moi, il m'avait profondément marqué. Quand on a lancé Rivière Blanche avec Jean-Marc L'Officier, on était, et un jour, j'ai reçu un coup de téléphone de Anne Lanclude, qui était son agent. On parle d'autre chose, et elle me dit, vous savez, j'ai deux manuscrits inédits de Jacques Sadoul. Est-ce que je peux vous les envoyer? J'étais assis, heureusement, parce que sinon je serais tombé, parce que pour moi, des manuscrits inédits de Jacques Sadoul, ça ne pouvait pas exister. Et que moi, on me propose ces manuscrits, ça ne pouvait pas non plus exister. J'ai reçu les manuscrits, c'était le Miroir de Drusilla, roman vampirique, et le Jaguar Rouge. Et quand je les ai lus, j'ai retrouvé ma jeunesse. Et pour moi, c'était deux excellents romans, un sur les vampires, un sur le monde aztèque. Et j'ai dit, mais pour moi, je ne peux pas les publier. Il faut... Et là, j'ai eu Jacques Sadoul au téléphone, on a eu une longue conversation, il m'a dit, allez-y. J'ai donc publié le Miroir de Drusilla, j'ai publié le Jaguar Rouge et j'ai rencontré enfin, au bout de 40 ans peut-être, Jacques Sadoul. Je suis arrivé au fameux domaine de R, une magnifique maison, mais ça Barbara en parlera mieux. Je suis rentré, je veux dire, je tremblais, j'avais peur. Je suis sorti, c'est comme si je connaissais Jacques Sadoul depuis toute ma vie, qu'il était un oncle. Il m'a mis à l'aise, on a passé une journée merveilleuse. Il nous a montré sa bibliothèque, ça je veux dire que là vous restez baba, les collectionneurs, quand il vous sort tous ses livres, là on reste là. Mais c'est un homme simple, et pour moi j'étais en admiration devant lui, et en partant je lui dis j'aimerais qu'on ressorte le domaine de R, tous vos livres dans une simple... Et il m'a dit, oh vous savez, moi les... on me considère... Il m'a dit, moi je m'en moque, je voudrais le faire. Il m'a dit, eh bien, on le fera. Voilà, il arrive ici, il est là. Et malheureusement, il n'a pas vu. Mais pour moi, c'était quelque chose de très important en tant que directeur de collection, petit directeur de collection, de ressortir ce livre qui m'a profondément marqué quand j'étais jeune. Je dirais que pour moi, la passion selon Satan, c'est peut-être ce qui m'a fait devenir écrivain. Et pas ce qui m'a fait devenir directeur de collection, mais vraiment ce qui m'a fait devenir écrivain, parce que j'avais tout dedans. Tout ce que j'aimais était dans ce livre. Alors, bien sûr, aujourd'hui, on peut dire qu'il a vieilli, mais pour moi, il n'a pas vieilli, il est toujours au fond de mon cœur. Et je veux dire, le fait de rencontrer Jacques au domaine de R, ça a été un grand moment pour moi. Et donc, je continue, le tome 1 est sorti, il y aura un tome 2, avec trois autres ouvrages. Barbara le voit, son épouse le voit, lui, il le verra, il le voit peut-être où il est, mais pour moi, je veux dire, c'est chaque fois... J'ai le cœur qui bat très fort. Je veux dire, quand je l'ai reçu la première fois, j'ai le cœur qui a battu très fort. Parce que pour moi, Jacques Sadoul, les autres, tout le monde en parlera, mais c'est aussi un romancier. Et je trouve que cet aspect du romancier est occulté. On en parle peu de lui. Et je trouve que c'est dommage. Je crois qu'il faudrait peut-être qu'un jour on redécouvre le romancier. Lisez ses romans policiers. Ils sont aussi très bien. C'est un conseil que je vous donne. Son personnage est très bien. Il était peut-être en avance. Mais pour moi aussi, Jacques, c'est ce que je voulais dire aujourd'hui, c'est que Jacques Sadoul était un romancier. Je continue.
Merci Philippe. Alors je vais reprendre un petit peu la parole parce qu'effectivement là vous venez d'exposer un petit peu, de parler de Jacques Sadoul, le romancier, et qui curieusement d'ailleurs, alors qu'il était passionné de science-fiction, n'a pas écrit de science-fiction. Mais en revanche, et là on va rentrer maintenant dans la partie pour laquelle peut-être on le connaît et on se souvient de lui le plus, c'est donc tout son aspect de façonneur du paysage éditorial de la science-fiction en France. Et il a commencé très tôt parce que il faut pas oublier que le club du livre d'anticipation a été créé par Jacques Sadoul dès 1966. Et là, j'ajouterai à titre personnel que je me souviens à l'époque, j'étais tout gamin, je lisais le magazine Galaxy qui sortait tous les mois, et je me souviens avoir découpé le premier bon de commande pour le livre d'Asimov qui était le premier volume du CLA, être ensuite allé trouver mon père pour lui demander de faire le chèque parce que c'était des bouquins qui valaient 20 francs ou 22 francs à l'époque, ce qui était une grosse somme, c'était des livres chers, et l'émotion de recevoir ce magnifique volume d'Asimov avec les cavernes d'acier face au feu du soleil, est là dans la vraie, dans une vraie traduction, non pas celle qui avait été tronquée au rayon fantastique une dizaine d'années auparavant. Donc le CLA, ça a été une collection magnifique qui a duré de nombreuses années, où vraiment on trouvait les plus grands auteurs et les plus grands romans, et qui a fait découvrir beaucoup de choses à l'époque. Et qui a d'ailleurs, si je me souviens bien, Jacques Sadoul a reçu le prix pour la plus belle collection de science-fiction du monde à une convention mondiale au Brésil, je crois, pour le CLA. Et ensuite, il a fondé, alors ça, c'est le CLA, c'était chez Opta, qui était l'éditeur spécialisé à l'époque en la matière. Il ne faut pas oublier non plus que c'est Jacques Sadoul qui ensuite a fondé Galaxy Bis en 67, toujours chez Opta, où là, c'était des romans en format poche, donc beaucoup plus accessibles au niveau prix pour le grand public. Et puis, en 68, il rentre chez J'ai lu, et là, il finit de révolutionner l'univers de la science-fiction français en lançant donc la collection J'ai lu science-fiction, et je crois qu'il n'y a pas un lecteur de science-fiction en France qui n'ait pas lu au moins une fois dans sa vie un J'ai lu de science-fiction. Et pour parler de cette collection, je vais passer la parole à monsieur Chris Foss, parce que la collection J'ai lu de science-fiction, elle a pris cette apparence. Vous avez vu certaines des couvertures dessinées par Chris Foss. C'est Chris Foss qui, avec Jacques Sadoul, a façonné cette image au début et fait ressortir ses livres dans le paysage éditorial. Donc, monsieur Foss, je vais vous passer la parole pour vous demander un petit peu de nous raconter comment vous avez rencontré Jacques Sadoul et comment vous en êtes venu à travailler pour commencer cette collection avec lui en faisant les couvertures.
Je crois que j'ai fait la connaissance de Jacques Sadoul depuis le temps que j'ai travaillé sur Dune. Je crois que c'est comme ça. Parce que ce n'est pas tellement clair. Je crois que j'ai fait la connaissance de Stan Barrett, sa tombe future. Et je crois que c'était lui et sa femme qui m'a introduit à Jacques Sadoul, ou peut-être il a renseigné par Jacques, il a saisi que j'étais à Paris. Mais alors, on a fait une rencontre, on a commencé à faire les rencontres. Il a m'expliqué, il a besoin de les tableaux pour les couvertures, comme toujours. Et ça, c'est mon boulot. Et j'étais en train de travailler pour Alejandro, et en même temps, j'ai commencé à sortir les dessins pour lui. Et quand Dune a fini, je crois que j'ai continué de travailler pour J'ai lu pour quelques temps. Je crois que j'ai eu l'habitude de venir à Paris pour quelques jours, toujours de venir chez lui, et on peut discuter quelque chose. Et aussi, j'ai vécu à Paris, je crois que c'était 2 ans que j'ai vécu à Paris, et peut-être c'est depuis cette époque-là que j'ai fait le plus grand montant de dessins pour lui.
Très bien. Et alors, comment ça se passait pour travailler avec Jacques Sadoul? Est-ce qu'il était très directif? Est-ce qu'il vous disait, voilà Chris, pour ce livre, je veux une couverture comme ci ou comme ça? Ou est-ce qu'il vous donnait carte blanche? Comment ça se passait au niveau travail?
Je n'ai pas un souvenir très clair parce qu'il y a peut-être 40 ans avant maintenant, je crois. Vous avez quel âge depuis cette époque-là? Vous n'êtes pas né, je suis sûr.
Si, je suis pas né. Je suis née en 68, bon. Donc j'avais 46.
Ah oui, vous n'êtes pas né. Alors, j'ai un souvenir de quelqu'un très gentil. On a toujours parlé très amicablement. Des fois, il a besoin de quelque chose qui, pour un anglais, c'est un petit peu bizarre. Nous avons une couverture, c'est pour univers, c'est un mélange des affaires, parce qu'il a voulu qu'on montre plusieurs des choses qui se passent dans l'univers. Et on a une femme, nous, avec un bébé. Voilà, c'est ça. Ça, c'était le plus bizarre. Et moi, j'ai dit, oh, pouf, écoute, ça, c'est le goût français, tu vois. C'est impossible de sortir une couverture comme ça en Angleterre depuis cette époque-là. Mais j'étais très, très content. longtemps parce que j'ai fait la guerre en Angleterre d'avoir les seins sur la couverture. J'ai essayé beaucoup de petites choses. On a les choses un peu cachées, mais on peut le voir. Mais il m'a demandé les trucs comme ça. Même en plus, un truc qui me plaît, il m'a demandé de faire les illustrations pour Univers. Nous avons des exemplaires ici sur le mur. Et monsieur, il est venu ce soir pour montrer des autres choses que j'ai pas souvenu. Et c'est juste une bonne expérience. Je souviens bien les designs ici sur le mur. J'étais très occupé avec Alejandro sur Dune et j'étais obligé de sortir pendant le déjeuner. J'ai travaillé à l'hôtel pour finir les designs, refiner les designs. Et après, j'ai donné chez lui. Et j'ai juste un bon souvenir, voilà. Pour moi, c'était une art director, si tu veux, comme normal. Ça, c'est mon boulot. Il m'a demandé quelque chose et j'ai fait les choses comme ça. Et voilà.
D'accord. Donc, en fait, finalement, à part une fois, dans l'ensemble, il vous laissait assez libre.
Oui, oui, il était très gentil avec moi. Je crois que la couverture qu'on a vue tout à l'heure avec la femme, nous, c'est la seule couverture qui était pour moi un petit peu bizarre. Et peut-être c'est à cause de ça que je souviens bien. Mais pour les autres, c'est très facile. C'est presque le même style que j'ai fait pour Asimov, les trucs comme ça. Et il était très gentil. Il m'a laissé... tu vois, gentiment, il a saisi. C'est impossible pour moi de lire le bouquin en français, et il a saisi bien que même je lis pas le bouquin, même si c'est traduit. Et toujours, il m'a demandé, un peu comme des éditeurs en Angleterre, fais main un vaisseau. Et c'est lui qui a trouvé le bouquin qui sont le plus près de goût de la couverture que le tableau que j'ai fait.
Très bien. Alors, peut-être Thibaut Eliroff. Maintenant que Chris Foss vient de nous évoquer un petit peu les débuts de la collection de science-fiction, vous qui aujourd'hui présidez aux destinées de cette même collection, peut-être pourriez-vous nous parler un petit peu de l'héritage, si j'ose dire, de Jacques Sadoul.
Oui, bah, moi, à la différence de vous tous, j'ai jamais connu personnellement Jacques Sadoul. J'ai eu l'occasion de le rencontrer une ou deux fois, mais je ne l'ai pas côtoyé. Quand je suis arrivé aux éditions J'ai lu, il était déjà plus depuis presque une dizaine d'années. Cependant, je pense pouvoir dire que, en quelque sorte, je travaille tous les jours avec lui. Pourquoi ? Parce que la science-fiction, elle a cette particularité, par rapport à beaucoup d'autres littératures, d'être une littérature de patrimoine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut dire qu'environ 90% des ouvrages de science-fiction les plus importants, ceux qui ont vraiment marqué le genre, sont disponibles et fréquemment réédités. Sauf qu'évidemment, pour pouvoir les rééditer aujourd'hui, il faut qu'il y ait quelqu'un qui les ait publiés une première fois. Il faut qu'il y ait eu des grands découvreurs, et je crois que Jacques Sadoul faisait partie, était l'un de ces grands découvreurs, peut-être au niveau de la science-fiction, le plus grand des découvreurs. Et quand je vous dis que je travaille tous les jours avec lui, c'est parce que une grande partie de mon travail, sans doute la plus intéressante et peut-être la plus amusante aussi, c'est justement de faire vivre tous ces grands auteurs qu'il a mis au programme, que ce soit de Asimov à Zelazny, en passant par Stephen King ou Van Vogt, de les faire vivre et de faire en sorte qu'aujourd'hui, ils soient toujours lus. Ça, à mon sens, c'est véritablement, en tout cas à mon niveau, l'héritage concret de Jacques Sadoul chez J'ai lu. Mais on peut aussi parler d'un héritage intellectuel, dans la mesure où voilà, il faut pas oublier que Jacques Sadoul, effectivement, on le connaît en tant que spécialiste de science-fiction, mais il était avant tout directeur éditorial de J'ai lu, de tout J'ai lu. C'est-à-dire que, bien sûr, il avait cette expertise en science-fiction, mais il avait aussi cette expertise en polar, en roman sentimental, en ésotérisme, dans tous les domaines qui constituent aujourd'hui la maison J'ai lu. Et je crois que de ça, on peut tirer un enseignement. Peut-être que ce qu'il voulait nous dire, c'est qu'il n'y a pas de bonne et de mauvaise littérature. Il y a plusieurs littératures et que tout est digne d'intérêt et de curiosité. Et 15 ans plus tard, c'est-à-dire qu'il y a maintenant, je dirais, une demi-douzaine de directeurs éditoriaux qui se sont succédés chez J'ai lu depuis son départ, eh bien, je crois que ce mot d'ordre qu'il nous a donné, il est toujours vivace aujourd'hui. Aujourd'hui encore, on est capable de publier aussi bien Michel Houellebecq que Barbara Cartland, George Martin, ou La femme parfaite est une connasse. Il n'y a pas de bons ou de mauvais livres, il y a juste des livres qui sont tous dignes d'intérêt. Et ça, je pense que c'est... Chez d'autres maisons, on pourrait parler de grand écart. Chez nous, c'est plutôt une vocation assumée. Et ça, clairement, on le doit à Jacques Sadoul. C'est, je pense, l'essentiel de son héritage aujourd'hui.
Merci. D'ailleurs, c'est aussi ce qu'avait dit Marion Mazorik, qui d'ailleurs s'excuse de ne pas être parmi nous ce soir comme il était prévu. Mais malheureusement, Marion Mazorik a une grosse grippe. Et donc, elle était incapable de pouvoir nous rejoindre aujourd'hui, et elle en était absolument désolée. Et justement, elle nous aurait, elle aussi, parlé, comme Thibaut Elirov vient de le faire, de ces années de travail avec Jacques Sadoul, qui, je crois, Thibaut, a continué, même après avoir pris sa retraite, à s'intéresser à ce que devenait Gélu.
Oui, tout à fait. C'était... quelque chose à laquelle il tenait beaucoup. Une fois par an, au moins une fois par an, il déjeunait avec le directeur éditorial ou le directeur général de Gélu, à la fois pour voir un petit peu ce que Gélu devenait et comment c'était géré aujourd'hui, et aussi pour nous dispenser sa grande sagesse. C'est à cette occasion que j'ai eu l'occasion, enfin que j'ai pu le rencontrer une ou deux fois comme ça, et ça a toujours été des échanges extrêmement, extrêmement riches. Et je crois qu'il avait vraiment le souci de savoir ce que devenait son bébé.
D'accord. Parce que c'est vrai, vous avez souligné à juste titre la grande ouverture d'esprit de Jacques Sadoul qui pouvait lire aussi bien Barbara Cartland que du polar, etc. Et il faut dire, et là peut-être Philippe Ward va nous en parler, c'est que Jacques Sadoul était aussi passionné à une époque d'ésotérisme, et c'est lui qui a fondé cette magnifique collection qui, elle aussi, a marqué des générations de lecteurs, qui est la célébrissime collection Aventures mystérieuses avec sa couverture rouge.
Je crois que c'est une collection unique, peut-être même au monde, parce qu'elle a touché tous les aspects de l'occultisme ou de l'ésotérisme. Et à l'époque, je veux dire, l'ésotérisme marchait bien. Et tous les grands auteurs, je peux dire, si on peut là, qui touchaient à l'ésotérisme, ont été publiés par Jacques Sadoul. Je veux dire, on peut dire qu'il a publié tous les grands auteurs de science-fiction et de polar, mais il a aussi publié tous les grands auteurs d'ésotérisme, que ce soit dans la magie, que ce soit dans l'alchimie, que ce soit dans les ovnis, dans l'archéologie mystérieuse. Il a publié peut-être des choses qui feraient rire maintenant. Je pense au fameux mois de bouddhiste T. Lobsang Grandpa, avec sa sagesse. Mais vraiment, cette collection, elle a marqué les gens parce qu'elle était peut-être, elle tombait au bon moment. Il a su trouver le bon moment de cette collection. Elle m'a marqué à moi, mais comme disait Jean-Luc, elle marquait beaucoup les gens parce que c'est une période où on s'intéressait aux ovnis. Je veux dire que tous les grands auteurs anglo-saxons américains ont été traduits. Il a traduit, même Jacques Vallée, Heineck, tout ça ont été traduits. Les auteurs qui s'intéressaient à l'alchimie, les derniers alchimistes, ont écrit là-dedans. Je veux dire que c'est lui qui m'a fait, pendant des années, essayer à trouver l'exilir de vie que je n'ai pas trouvé, la pierre philosophale que je n'ai pas trouvé. J'ai cherché les trésors des cathares, de Rennes-Château, des Templiers que je n'ai pas trouvé. Mais tout ça, je lui dois. Je lui dois parce qu'il trouvait des auteurs qui marquaient comme en science-fiction, je dirais des gens comme Gérard de Sède et tout ça, à cette époque-là, ont marqué les esprits de beaucoup de lecteurs. Cette collection après a basculé dans le New Age, bon, et elle est petit à petit tombée, peut-être parce que l'intérêt de l'ésotérisme... Elle est toujours ? Bon. Alors, vous voyez, je ne suis même plus au goût du jour. Mais voilà, donc elle continue, alors ça serait 40 ans après, et elle marque toujours. Mais pour moi, et pour beaucoup d'autres, elle a vraiment marqué parce qu'elle arrivait, et parce qu'encore une fois, il a trouvé les auteurs, il trouvait les titres, il a su aller les chercher en Angleterre, aux États-Unis. Et il y a écrit dedans, puisqu'il a fait un ouvrage sur les alchimistes. Et là, je pense... malheureusement, je n'ai pas pu discuter trop longtemps avec lui là-dessus, mais c'était quelque chose qui, quand on voyait cette collection, devait le passionner.
Oui, il s'est vraiment passionné pour ça, au point, d'ailleurs, vous voyez par exemple ici, l'une des traductions en portugais, il a écrit deux ouvrages sur l'alchimie, le grand art de l'alchimie et le trésor des alchimistes. et il a écrit un ouvrage sur l'astrologie qui s'intitule « L'énigme du zodiaque » et auquel il a appliqué son esprit d'analyse, et au point que ce sont devenus des ouvrages classiques en la matière, qui ont été traduits dans de nombreuses langues, en particulier en italien, en portugais, en espagnol. Et il y a appliqué la même chose que l'on pouvait trouver aussi dans d'autres ouvrages qui sont peut-être plus connus de lui, au moins dans le public des Utopiales, comme son histoire de la science-fiction moderne, en deux volumes, son histoire, son panorama de la bande dessinée. Là aussi, à chaque fois, il appliquait un esprit d'analyse qui était absolument remarquable sur les domaines auxquels il s'intéressait. Et naturellement, je pense que peut-être l'un d'entre vous voudra aussi aborder un petit peu l'une des collections qui, à l'intérieur de J'ai lu science-fiction, qui ont le plus marqué là aussi des générations de lecteurs. C'est sa série des meilleurs récits de ce pulp, attiré des différents pulps, qui ont fait rêver tous les lecteurs français. On s'est dit pendant des années, grâce à Jacques Sadoul, on a pensé que la science-fiction des pulps de l'âge d'or aux États-Unis, chaque mois, les lecteurs américains avaient droit à des merveilles extraordinaires à cause de lui. Donc, peut-être, est-ce que l'un d'entre vous voudrait en parler un petit peu ?
Mais moi, j'ai découvert, par exemple, la revue Werthels par lui. Et à cause de lui, j'ai dépensé beaucoup d'argent pour me procurer cette revue. Parce que vraiment, je veux dire que, perdu, moi, dans ma campagne pyrénéenne, je n'avais pas accès à tout aux marchés américains. Et c'est grâce à lui que j'ai découvert la science-fiction américaine, grâce à lui que j'ai découvert toutes ces revues que je n'imaginais même pas. Je veux dire qu'en France, on avait Fiction et Galaxie, mais je me suis dit, mais 40 ans avant nous, les Américains, quelle chance ils avaient d'avoir toutes ces revues tous les mois, avec tous ces grands auteurs, même si certains auteurs de Werther ont disparu, on ne les connaissait plus. Mais lui nous a fait découvrir, je veux dire, presque Lovecraft, presque Auguste Derleth, tous ces gens-là, grâce à lui, comme j'ai dit tout à l'heure, il était mon dealer, mais il a été mon professeur. J'ai appris, j'ai découvert grâce à lui la science-fiction. Et cette collection était vraiment parce que c'était le meilleur. Quand vous lisez les revues, il y a des choses qui n'étaient pas terribles, mais lui, il a sorti la substantifique moelle de toutes ces revues. Et ça aussi, ce n'est pas évident. Quand vous avez toute une collection, quand vous avez des centaines de numéros, trouvez les meilleurs textes. Il les a trouvés et nous les a mis. Sans cette collection, je veux dire qu'on serait passé à côté de beaucoup d'auteurs. On serait passé à beaucoup de textes. Qui, à l'époque, je veux dire, pouvait sortir les meilleurs récits de... Moi, je vois qu'il n'y a pas beaucoup d'éditeurs qui le faisaient. Il n'y en avait aucun. C'était lui. Sans lui, on serait passé, je veux dire, à côté de beaucoup de choses.
Alors, maintenant que nous avons tracé un portrait très rapide et forcément un peu très incomplet de votre père, Barbara Sadoul, quand même, je vais vous demander, qu'est-ce que ça fait d'être la fille d'un tel homme? Ça doit donner une enfance tout à fait particulière.
Bah surtout, c'était très agréable parce qu'on était très complices. Et avec Jacques, on pouvait aborder tous les sujets. Et c'est vrai que c'est certainement une enfance où moi, j'étais au milieu des pulps. Et donc, si ça, toi, ça te faisait rêver, moi, je devais rêver au milieu puisque je détestais dormir dans ma chambre. Je pense que j'y faisais pas mal de cauchemars, tandis que dans le bureau bibliothèque de mon père, c'est là où j'aimais bien dormir. Et donc, il y avait tous les pulps au milieu, et là, aucun cauchemar. Et puis, pour rebondir un peu sur ce que vous avez dit, le domaine de R, c'est vrai que moi, j'ai lu La Passion selon Satan quand j'avais 13 ans. Je pouvais pas le lire avant parce que c'était quand même... une lecture, déjà il y avait écrit pour lecteur averti. Alors, je me rappelle quand je l'ai lu, ceux qui l'ont vu, ils me disaient mais qu'est-ce que tu lis? En plus à 13 ans je faisais peut-être 9 ou 10 ans physiquement, donc je sais que c'était en Corse que je l'ai lu au bord de la piscine, et celle qui m'a demandé ça, je lui ai dit je lis La Passion selon Satan, donc déjà le titre ça l'a épouvanté. Je dis c'est normal, c'est un livre de mon père. Bon, après, elle m'a pu poser trop de questions. Hein. Mais La Passion selon Satan, c'était aussi donc cette maison, le domaine de R, qui, elle, existe vraiment, puisque c'est là où maintenant il y a la bibliothèque. Et donc, il y a tout un côté un peu fantastique, presque réel, là, puisque c'est un ancien hameau, il y a plein de chauves-souris le soir, c'est sur une hauteur, un ancien moulin, donc il y a toute une atmosphère. Et c'est la même atmosphère que j'ai connue à chaque vacances pendant mon enfance, et la même atmosphère que mon père lui a connue, puisque cette maison lui a été offerte quand il est né par sa marraine. En fait, sa marraine ne pouvait pas avoir d'enfant, trouvait mon grand-père très beau, mais il était trop jeune pour elle. Donc, elle lui a fait rencontrer ma future grand-mère. Et elle a dit que si ils avaient un fils qui naissait le 8 décembre, puisqu'elle était très croyante, contrairement à mon père, il aurait cette maison. Et donc, cette maison qu'on retrouve dans son œuvre, elle a aussi tout ce côté-là. Et je pense que, bon, c'est pas l'auteur, moi, auquel je pense quand je pense à mon père, c'est plutôt celui avec qui je partageais plein de passions. Et cette passion pour le Sud-Ouest, pour la nature, puisque Jacques aimait vraiment se balader dans les champs. Il a fait un livre de photos qui s'appelle « Ma Gascogne ». Et ça représente vraiment son amour pour cette région.
Oui, et puis, alors, ça, on va peut-être revenir, parce que c'est vrai que votre père était un photographe passionné, mais je crois que c'était aussi un passionné de cinéma.
Oui, ça, le cinéma, on est souvent allés au cinéma ensemble. C'est aussi avec lui que je suis allée à la Cinémathèque la première fois, voir le 7e Sceau. Enfin, il y a tout un certain nombre de souvenirs qui sont liés à différentes formes d'art. Et quand on parlait de Barbara Cartland, c'est vrai que quand moi je me suis mise grâce, je reviens aux Pulps, mais quand j'ai voulu faire mon doctorat sur les loups-garous, j'aurais jamais pu le faire s'il n'avait pas eu tous ces Pulps et que j'avais pas eu à disposition autant de nouvelles à pouvoir découvrir. Je voulais absolument trouver les quelques numéros qui lui manquaient. Et donc, à un moment, lors d'un voyage où il devait aller rencontrer Barbara Cartland, donc on est partis tous les deux à Londres. Et donc, moi, j'étais toute la journée au British Museum. Lui avait tous ses rendez-vous et on se retrouvait le soir. Et je me rappelle qu'on était allés au restaurant Sherlock Holmes. Enfin, voilà, on avait des passions pour la littérature, pour le cinéma tout à fait communes.
Oui, parce que là, en matière de cinéma aussi, c'était une sorte d'esprit universel. Il s'intéressait à toutes les formes de cinéma. Il n'avait pas de genre particulier.
Ouais, il aimait bien quand même le cinéma américain, le cinéma, la comédie musicale. Ça, vraiment, on en a vu pas mal ensemble. Il aimait bien... Ben, on a vu pas mal de films avec Marilyn Ava Gardner, mais bon, ça ne l'empêchait pas d'aller voir différentes formes de cinéma, oui.
D'accord. Alors... Je vais peut-être interrompre un tout petit peu le cours normal de cette table ronde, parce que j'aperçois dans la salle une personne qui a été publiée par Jacques Sadoul et qui a travaillé avec lui pour la publication de la revue Univers. Alors, Joël Vintrebert, vous êtes là, vous êtes caché anonymement au milieu, mais mon œil d'aigle vous a repéré. Est-ce qu'on pourrait passer, s'il vous plaît, un micro à Joëlle Vintrebert, parce que je serais très heureux si elle pouvait nous dire quelques mots sur Jacques Sadoul, qu'elle a bien connu.
Bonsoir. Oui, enfin, j'ai surtout été éditée par Jacques. Voilà, c'est un de mes... peut-être mon meilleur souvenir d'écrivain, puisque j'avais fait lire à Jacques un manuscrit donc, qui s'appelle Les Maîtres Feux, qui était mon deuxième roman. Et Jacques m'a invité à déjeuner au restaurant. Et donc, il ne m'avait absolument rien dit, évidemment. Et au dessert, donc, il a sorti d'un cartable, enfin, qu'il avait apporté avec lui un contrat. Donc, il m'a tendu. Il m'a fait signer ce contrat au dessert. Voilà. Donc, effectivement, pour un jeune écrivain, donc, qui n'avait encore publié qu'un roman, c'est un très grand souvenir. Voilà. Je garde Moi, j'avais été baignée, j'ai été nourrie par les éditions J'ai lu. Enfin, j'ai découvert la science-fiction avec les éditions J'ai lu. Et c'est vrai que publier mon second roman chez J'ai lu avec Jacques Sadoul qui me tend au dessert mon contrat à signer, c'était vraiment quelque chose d'absolument merveilleux, magnifique. Et j'en garde un souvenir absolument ébloui. Voilà. Et quand, quelques années plus tard, assez peu de temps plus tard en fait, Jacques, qui savait que j'avais été la rédactrice en chef de la revue Horizon du Fantastique, m'a proposé de diriger Univers, qui avait d'abord été publié en trimestriel sous la houlette de Yves Frémion, avec Jacques, en tandem avec Jacques, pendant quelques années, et puis repris quand la revue avait commencé à décliner un tout petit peu par Jacques lui-même, qui avait, je crois qu'il y a eu 2 ou 3 annuels qui ont été publiés par Jacques seul. Mais Jacques, bon, entre toutes ses missions d'éditeur, ne pouvait pas s'en sortir en tant qu'anthologiste et chercher à quelqu'un pour reprendre le flambeau. Donc il m'a proposé de reprendre la direction d'Univers et il m'a demandé de m'occuper d'Univers. Voilà, ce que j'ai accepté avec joie, effectivement, parce que c'était vraiment un défi à relever pour moi et je l'ai relevé avec joie.
Merci beaucoup, Joël. Alors, si Jacques Sadoul, il y a aussi un aspect dont on n'a pas parlé, parce que c'était une sorte de précurseur révolutionnaire dans le monde de l'édition en général. Il a été, si je ne m'abuse, le premier à sortir de la bande dessinée en format de poche. Et il a été aussi le premier, je crois, à sortir des mangas. Qui, l'un d'entre vous, pourrait peut-être nous en parler?
Là, j'ai lu BD, ça je me rappelle qu'il avait même fait refaire par certains dessinateurs certains dessins pour que ça entre justement dans les cases et dans le format plus petit. Après, je pense que c'est Thibaut qui peut peut-être plus en parler et je lui relance.
On parle d'une période où j'étais malheureusement pas encore arrivé chez J'ai lu, donc j'avoue que j'ai pas de souvenirs à ce sujet-là, mais effectivement, le manga, ça a démarré en France dans les années début 90. Moi-même, j'étais jeune lecteur et à l'époque, pour trouver des mangas, des bons mangas, il fallait aller dans des boutiques spécialisées qui commercialisaient des livres à peine traduits du japonais chez des éditeurs obscurs. Et puis après, d'autres grandes maisons ont pris le relais. Et dont J'ai lu notamment, qui s'est fait une fois de plus l'un des grands découvreurs d'un genre tout à fait nouveau. Ça a duré effectivement quelques années. Il y a eu des séries très importantes pour le genre qui ont été publiées. Et voilà.
Ce que je peux rajouter, c'est qu'en tout cas, moi, ce qui m'avait étonnée chez mon père, c'est que quand je voulais savoir comment il pouvait choisir un livre pour J'ai lu et combien de temps il mettait à lire tous les livres qu'il avait, en général, il arrivait à lire en diagonale, en 20 minutes, un livre et savoir exactement si ça pouvait plaire au public. Et ça m'a toujours étonnée, cette capacité. Et pour les mangas, je crois qu'il y avait une librairie qui était vers le square à Montholon, où il avait vu un certain nombre d'adolescents qui lisaient des mangas, et je pense qu'il leur avait posé des questions pour savoir ce qui leur plaisait, et du coup, il sentait si ça pouvait vraiment plaire au public. Et c'est vrai qu'il avait cette notion que je trouve très importante, c'est on peut lire de tout du moment qu'on aime ça. C'est ce que tu disais tout à l'heure.
Très bien. Et alors, pendant qu'on évoquait les mangas, Yves Frémion, que venait de citer Joël Vintrobert, était en train de passer. Donc, si l'on pouvait aussi donner le micro, hein, cette table ronde, vous voyez, c'est un peu, là, c'est du très spontané. Si on pouvait passer un micro, s'il vous plaît, à Yves Frémion, qui a aussi travaillé avec Jacques Sadoul et qui a été le premier rédacteur avec Jacques de Univers.
Oui, j'improvise, j'ai pas du tout écouté ce que vous avez dit sur Jacques et je regrette beaucoup, mais j'étais dans le jury qui délibérait. Moi j'ai eu, il y a 4 personnes qui ont joué un grand rôle dans ma vie, Jacques en est une. On se connaissait pas du tout. Et puis un jour, j'avais pas lu ses livres. Je pense qu'il avait pas lu les miens d'abord parce que je les avais pas encore écrits. Et un jour, il me téléphone et il me dit voilà, je vais lancer une revue trimestrielle en livre de poche, une seule étoile. Et je voudrais que vous soyez le rédacteur en chef de cette revue. Alors j'ai cherché quel était l'abruti parmi mes amis qui était en train d'imiter la voix de Jacques Sadoul que je ne connaissais pas. Et c'était vraiment Jacques Sadoul. Alors il avait repéré les articles que j'avais faits, qui lui plaisaient bien. Et puis il avait dressé la liste de tous les rédacteurs en chef qu'il pouvait avoir. Et il s'était dit, ils vont tous m'emmerder, c'est tous des super professionnels, je vais demander au petit con, là, qui, lui, me devra tout. Et donc, il m'a confié la rédaction en chef de Univers, qui était une revue, je précise, pour ceux qui font des revues, qui tirait à 50 000 exemplaires et qui les vendait. Le numéro 2 s'est vendu 52 000 exemplaires pour une revue de science-fiction en France. Réfléchissez un peu ce que ça veut dire maintenant. Bon. Et donc, comme on n'était pas vraiment d'accord sur le type de science-fiction à défendre, parce que Jacques Sadoul adorait la science-fiction ultra-réactionnaire et moi plutôt l'ultra-révolutionnaire, on avait décidé que lui, en tant que, en quelque sorte, directeur de la revue et moi, en tant que rédacteur en chef, on fait un éditorial chacun. Et on a fait des éditoriaux qui disaient le contraire parfois. Quand il y a eu Star Wars, par exemple, moi je détestais Star Wars, lui, pour lui c'était vraiment le plus grand film jamais tourné, on faisait un double édito. C'est quand même une forme de liberté que je n'ai pas souvent trouvée dans ma vie, et je lui dois évidemment énormément. Et je sais une chose, c'est que quand on a arrêté la revue, alors je précise, on a arrêté la revue parce qu'elle vendait moins de 30 000 exemplaires. Oui, bon... Et il m'a dit quand même, si tu fais un livre, propose-le-moi. Alors je lui ai proposé un recueil de nouvelles. Et alors ça, c'est Jacques Sadoul typique. Il a dit, je l'ai fait lire à la lectrice des romans sentimentaux. Pas du tout au lecteur de SF. Et pas de bol pour lui, elle a adoré. Donc il a publié mon livre, voilà. Ce que j'aimais beaucoup chez Jacques, c'était qu'il affectait d'être un personnage. Il était en réalité un tout autre personnage. Il affectait d'être très détaché, alors qu'en fait, il avait des côtés très sentimentaux. Il jouait à fond le réac, alors que c'était un homme pas du tout réac dans la réalité. Et... c'était quelqu'un qui avait un humour à froid absolument extraordinaire. Il avait une manière que j'oublierai jamais de bouger sa main, notamment gauche, d'une certaine manière quand il venait de dire une énormité très drôle, mais d'un air tellement impassible que la personne qui était en face ne pouvait pas forcément se douter que c'était de l'humour. Alors il fallait repérer sa main pour voir si vraiment il était en train de rigoler. C'était un petit truc nerveux, hein. Bon, voilà, je dis ça devant Barbara, qui l'a connu bien mieux que moi. En tout cas, c'est quelqu'un qui manque beaucoup à la SF.
Merci beaucoup, Yves Frémion, pour ce témoignage. Et pendant ce temps, la leur a tourné. Alors, est-ce qu'il y aurait une question? On a essayé d'être un tout petit peu exhaustif, mais forcément, c'est très difficile en si peu de temps. Est-ce que quelqu'un a une question dans la salle? Ou un témoignage, quelqu'un que je n'aurais pas repéré et qui aurait connu Jacques Sadoul? Non. Bon, ben, écoutez, alors, je crois que pour conclure cette table ronde, parce qu'on m'a expliqué qu'en plus, il allait falloir ensuite installer un robot qui s'appelle Roméo, je crois. Mais ce que je vous demanderai à chacun, c'est... Qu'est-ce qui, pour vous, a été le trait le plus marquant, comme l'a dit Frémion, le trait le plus marquant pour vous de Jacques Sadoul? Alors, Barbara.
Moi, j'aimerais juste la rebondir sur ce qu'a dit Yves, parce que c'est vrai que son humour, je pense, est ce qui peut rester le plus pour tout le monde. Et d'ailleurs, Clotilde Wendel, qui a travaillé, qui travaille toujours chez J'ai lu et qui a beaucoup travaillé avec Jacques, à l'insu de mon père, pendant 16 ans, a noté toutes ces phrases, justement, pince sans rire et très drôles. Et pour son départ à la retraite, J'ai lu lui a fait cette très belle surprise de faire un recueil avec une couverture de Gottlieb et où il y a toutes ces phrases et qu'il représente bien. Et pour avoir une pensée aussi pour Marion Mazorik, je me rappelle qu'elle m'avait raconté que quand elle a été engagée chez J'ai lu, Jacques lui donnait des cours une demi-heure tous les matins, elle venait plus tôt et il lui donnait des livres à lire, ils en discutaient et il aimait bien faire des bons coups, comme tu l'as dit. Et donc pour les romans sentimentaux, il lui avait dit lequel faut-il choisir, donc il en avait étalé deux sur la table. Et elle lui avait fait toute une théorie pour choisir. Et là, il a sorti un pendule de sa poche, alors qu'il n'a jamais eu de pendule sur lui. Et a dit, bien, voilà, le pendule a choisi celui-là, et c'est celui-là qu'il faut. Et il m'a dit, enfin, c'est Marion qui me l'a raconté après. En fait, Jacques lui a dit très longtemps après, il savait très bien que les deux romans étaient tout à fait aussi bons l'un que l'autre. Voilà, donc je pense que l'humour de Jacques et sa façon aussi de savoir faire travailler plusieurs personnalités différentes ensemble en les respectant, c'est vraiment quelque chose qu'on peut retenir tous.
Merci Barbara. Chris Fosse, pour vous, quel est votre souvenir le plus marquant de Jacques Sadoul?
c'est mon meilleur souvenir, c'est ça?
Yeah.
Oui, j'étais en train de réfléchir parce que je crois que c'était 40 ans avant maintenant, tu vois. Et c'est ma première temps à Paris. Je crois que je n'ai pas parlé français très bien. Et mon souvenir, il n'a pas parlé anglais très bien. Et peut-être c'est grâce à ça, il est pas obligé de me donner trop de commandes. Et je suis bien, c'est quelqu'un qui a parlé sur les déjeuners, ça c'est un truc que je suis bien. J'aime beaucoup la vie à Paris, tous les éditeurs, ils ont sorti pour le déjeuner, ils sont toujours bien installés dans un bon restaurant. Et ça, je suis bien, ce truc-là, voilà. On a toujours eu un très bon repas, on a discuté les couvertures. Et j'ai vécu à Paris pour 2 ans, je crois. Et au début, quand j'étais chez Alejandro, j'ai revenu au bureau. Mais je crois, après ça, les rendez-vous sont plus intéressants parce que j'ai venu au bureau, on a parlé sur les couvertures, et toujours après ça, pour le déjeuner, ça c'est super, voilà. Merci, monsieur.
Philippe Ward.
Son foie gras d'oie. Parce que c'était un gastronome, il m'a servi un foie gras d'oie qui était délicieux. C'était quelqu'un du sud-ouest comme moi et on s'est retrouvé là-dessus.
Et pour vous, Thibault, le trait
Moi qui ne l'ai pas connu, oui, mais néanmoins, ce que je retiendrai de son enseignement, c'est sa curiosité, je pense, à l'égard de toute chose et surtout de tout livre, toute littérature, qui est quelque chose qu'en tant qu'éditeur, je ne veux jamais oublier et que je veux pouvoir appliquer au jour le jour dans mon travail.
Très bien. Ben, je crois que nous vous avons proposé là une très imparfaite esquisse de qui a pu être Jacques Sadoul, mais qui a profondément marqué génération après génération de lecteurs. Et comme vous l'avez vu, dans différents genres de la littérature. Et je crois qu'il ne nous reste qu'à remercier nos intervenants prévus, plus nos 2 intervenants spontanés, pour leur témoignage.
Moi, je vous remercie tous, en tout cas.